Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, c'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris, donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison, le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free, l'épisode 19, où je reçois des amis d'enfance pour discuter avec eux. Je l'avais dit hein, dès le pilote de ce podcast que je ferai ce que je veux et je parlerai à qui j'ai envie de parler. Et c'est exactement ce que je fais là dans cet épisode. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ce que vous allez écouter et vous parler à vos propres amis d'enfance? C'est juste que mes amis sont supérieurs, tout simplement. Et que moi, j'ai décidé d'en faire un podcast. Voilà, vous avez qu'à lancer votre podcast aussi. Et comme ça, on l'écoutera. Plus sérieusement, je reçois aujourd'hui Benjamin et Pierre-Julien. Si vous entendiez un peu de bruit là en fond, c'est que mon chat fait n'importe quoi et qui vient niquer ma séance d'enregistrement. Benjamin et Pierre-Julien, donc je disais Pierre-Julien qui est prof des écoles et qui est devenu éducateur spécialisé. Benjamin, qui était ingénieur en génie civil et qui est devenu gendarme avant de redevenir ingénieur en génie civil. Donc je me dis, c'est le cocktail parfait pour qu'on puisse discuter de l'éducation nationale, des forces de l'ordre, puis des dérives des forces de l'ordre qu'on a actuellement. Le tout dans une ambiance plus sympa que ce qu'on peut retrouver peut-être dans certaines émissions, et puis surtout à se poser et ne pas avoir peur de se poser des questions qui peuvent fâcher, parce que du coup entre amis on n'a aucune motivation, on n'a pas besoin d'avoir un regard cool de l'autre parce qu'on ne se juge pas entre nous. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des messages et à me dire ce que vous en avez pensé, et puis peut-être des remarques par rapport à ce qu'on dit. C'est possible qu'on peut dire de la merde puisque nous sommes des gens normaux. Le podcast est disponible sur toutes vos applis de podcast, Spotify, Deezer, donc abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, ça permet vraiment de faire vivre le podcast et de le faire connaître en fait, parce que il y a des algorithmes qui font que dès qu'il y a une bonne note, il y a plus de gens qui peuvent le voir apparaître sur la première page des podcasts. Cet épisode, et d'ailleurs tous les épisodes de Sugar Free, sont aussi disponibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Areski Sugar. Le lien est dans le descriptif, donc n'hésitez pas là aussi, si vous préférez la version vidéo, à vous abonner. Et puis je vous souhaite une bonne écoute à tous.
C'est que tu vas commencer à parler des gendarmes et compagnie dans 4 secondes.
Il ne va pas être d'accord.
J'ai l'impression d'être dans mon dernier entretien professionnel, c'est affreux en fait.
T'étais stressé toi, genre avant que tu prennes ton dernier job de bureau d'études toi?
Non, sur le boulot où je suis actuellement, non. Mais là récemment j'ai essayé de changer un petit peu et je ne m'étais pas préparé. Et c'est vrai que si tu ne te prépares pas, tu ramasses quoi.
Mais t'as fait des entretiens dans exactement le même type de boulot?
Non, justement, c'était un boulot que je connaissais pas, donc j'étais pas du tout dans la zone de confort et je m'en suis aperçu Et j'ai fait 3 entretiens et le dernier entretien, c'était avec le boss.
Ah ouais.
Et en fait, je disais à ma femme, j'ai dit, mais en fait, j'aurais dû voir le boss dès le début.
Ah.
Parce que le boss, en 10 minutes, il a compris que j'étais pas fait pour le poste, en fait.
Mais c'est-à-dire, t'étais pas fait pour le poste, tu voulais quand même le poste ou
Non, ouais, ça m'intéressait, mais après, en fait, c'était. C'est juste qu'il voulait pas prendre le risque de prendre quelqu'un qu'il connaissait pas trop, et surtout actuellement.
C'était pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est toujours dans créer des bâtiments, ouais. du béton un peu.
Non, c'était. c'est des mecs qui recyclent des containers maritimes pour faire de la construction.
Ok.
Mais comme ils font de la production, c'était plus un poste chef de projet.
Ouais.
C'est beaucoup moins technique que ce que je faisais.
Ah ouais, d'accord, le truc genre de manager
gestion,
un peu.
Gestion, planning manager, production et.
Ça t'aurait.
Je connaissais pas trop, tu vois.
Mais t'aurais kiffé quand même le faire?
J'avais envie de changer un petit peu.
Ouais.
Mais du coup, voilà, comme j'étais pas en zone de confort et je connaissais pas trop le job, le mec il l'a senti de suite et
ouais.
Il voulait pas prendre le risque de prendre quelqu'un qui connaît.
Mais la prochaine fois tu fake quoi, tu dis bien sûr je sais le faire. Mais franchement moi j'ai l'impression que plus ça va dans...
Non mais j'aurais dû le préparer dans ce sens là mais
ah oui,
je suis allé un petit peu en touriste quoi.
Oui, bah après ça fait une expérience de plus en termes de
ouais,
d'entretien quoi. Mais moi plus ça va dans notre adulteté là, plus je me rends compte que la plupart, genre 70% des gens dans leur travail, ils font semblant de s'y connaître en fait.
C'est vrai. Et surtout en réunion, tu sais, quand il y a du monde, quand on te pose, quand on te parle, oui, tout à fait. Tu prends un air où t'es sûr de toi, mais en fait t'es pas du tout sûr. T'es en train de noter tout ce qu'on te dit,
ouais.
Pour savoir. Je vais checker après.
Mais moi les réunions, j'avoue, je suis passé à travers le truc parce qu'en fait quand t'es dentiste ou quoi, t'as un patient. À la limite, tu peux demander un second avis à un collègue. Tu vois si c'est un truc un peu complexe ou quoi. Mais à aucun moment, il y a zéro réunion à faire quand t'es dentiste. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre,
ouais.
Il faut faire ceci, ferme ta gueule quoi. Il faut soigner le patient ou alors il nous manque ça de matériel et c'est tout. Et j'ai l'impression d'être entouré que par des gens qui, tout le temps, ah oui, bah ce matin, j'ai commencé ma journée avec 2 heures d'un gars qui parle de pas mon travail, quoi. Ça, moi, je pense que je péterais un plomb, mais direct, quoi. C'est genre, tu me demandes de venir, de m'asseoir, d'écouter un truc qui potentiellement m'intéresse pas et qui a aucun rapport avec ce que je fais. Mais dégage, en
mais
fait, je vais regarder une série.
Est-ce que dans certains cabinets, quand même, ils font dentaires, ils font pas des réunions? Ça serait trop bien.
En fait, il y a c'est pas vraiment des réunions, en gros, c'est plutôt pour maintenir un espèce de lien social entre les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et être sûr que...
Enfin, l'administratif, quoi.
Ouais. En fait, c'est plus fin que ça. J'ai l'impression que c'est plus pour détendre l'atmosphère entre les gens, créer une espèce de cohésion, etc. Moi, en vrai, je sais pas, si tu fais bien ton travail, je t'aime bien. Tu vois? Genre, j'ai pas besoin d'une réunion pour que ça s'entende bien, pour bien m'entendre avec d'autres personnes, en fait. Mais il faut qu'il y ait d'abord de la compétence. Je sais pas. Toi, PJ, toi, t'as vu plein de réunions, parce que, en fait, quand t'es prof, tu fais que ça?
Non, il n'y en a pas tant que ça, au final. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai vu de tout ce qui existe, du pire au meilleur, je pense, en termes de réunion.
Mais...
Du plus utile au plus superficiel qui est possible.
Mais, ah oui, plus utile.
J'ai tout le spectre.
C'est quoi typiquement un truc utile? Une réunion utile.
De preuve.
De preuve, du coup.
C'est l'analyse de pratique, c'est-à-dire c'est un truc avec un intervenant extérieur.
Ah.
Où en gros c'est confidentiel, le groupe il est fixé pour un certain nombre de séances et tu t'interroges sur je sais pas, le cas d'un élève, d'un enfant, d'un ado, et t'essaies de creuser pour trouver la meilleure manière de l'accompagner.
Ouais.
Et
mais c'est du vrai problème solving quoi. C'est du
oui
vrai
truc. La façon dont c'est fait, dont c'est conçu, c'est que c'est efficace en fait. Donc c'est même pas considéré comme une réunion, c'est un truc à part en fait.
Ouais.
Et en réunion inutile, mais je sais pas, il y en a des milliards quoi. Là il y a rien qui me vient, mais c'est.
Mais typiquement.
C'est effrayant le temps qu'on peut perdre en fait. C'est surtout ça, toute l'énergie et le temps perdu.
Ouais. Mais j'ai une pote qui est graphiste, Sophie Bergeau, elle est aussi humoriste, et là en ce moment elle bosse en freelance en tant que graphiste, et en fait on l'oblige à assister à des réunions donc sur des trucs qui la concernent pas, et en fait elle m'a dit, à un moment je suis obligé de voir la manageuse là, pour lui dire, bah, vous vous rendez compte que vous me payez pour pas faire de travail, là. C'est-à-dire que là, je peux pas faire mon travail, là. En fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'as littéralement des objectifs, tu vois, des quelques Photoshop à faire ou des trucs comme ça, et si tu obliges des gens à venir écouter des trucs qui ont aucun rapport, ben, tu perds de la thune, en fait, tu vois.
Après, ça dépend aussi de ton caractère, c'est-à-dire, moi, je vois des réunions où il y a des gens, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, et puis ils vont dire, bon, vous avez besoin de moi, et en 30 minutes, ils ont fait leur affaire.
Ouais.
Et t'en as où je suis plus comme ça, où je suis plus tendance à écouter un peu tout ce qui se dit. On me pose deux, trois questions, mais en fait, sur 3 heures de réunion, j'ai parlé 3 fois. Et j'ose pas, tu sais, dire, j'ose pas casser les gens en leur disant, non, arrêtez-vous, il faut que je parte. Où je suis plus là, bon, je vais attendre la fin de la réunion.
Ouais, mais c'est quoi les personnalités des gens? Là, justement, regarde, là, si tu fais 3 heures de réunion avec quelqu'un, c'est quoi la personnalité du gars qui te fait chier, en fait, qui parle pendant 1 heure pour rien dire? Tu sais ce que je veux dire?
Ah, dans ce cas-là.
Ouais. Bah, parce que là, sur 3 heures, tu es pas en train de me dire que sur 3 heures, tout le monde te dit des trucs qui vont te servir à toi et qui sont ultra intéressants.
Ah, ça, moi, non, en fait. Mais sur, par exemple, moi, c'est dans le bâtiment, donc sur une certaine problématique, je sais pas, ils vont parler de... Moi, je fais du béton et eux, ils vont parler d'électricité, de portes, de menuiserie, de trucs. Je m'en fous complètement. mais tu te dis, à un moment donné, ils vont peut-être
avoir besoin de toi.
Avoir besoin de moi. Ouais. Donc, du coup, t'es là, t'attends. C'est là où le télétravail, ce qui est bien, les réunions en télétravail, c'est que tu mets pas la caméra et en fait, tu bosses à côté.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et puis, des fois, t'entends monsieur, que vous en pensez quoi? Et là, par contre, comme t'as pas écouté, tu t'es un peu dans la merde.
C'est ça.
Mais c'est ce que j'allais te poser la question, c'est quoi la diff entre, genre, les gars, ils font leur réunion, et derrière, au milieu, ils ont le truc Cisco System, où ils pressent un bouton, pendant que toi, t'es dans ton bureau, tu fais du vrai taf, et ils disent, genre, oui, niveau béton, pour ça et ça, il faut faire quoi, et tu peux répondre, en fait. Tu vois, t'as pas besoin d'être là, on n'a pas besoin de t'accaparer
oui,
là,
tout à fait.
Physiquement.
Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est mieux, même les réunions en visio. Pour ça en fait, parce que finalement tu perds pas le temps de te déplacer, d'aller on te dira il y a plus le contact humain,
tu fais semblant d'assister à la réunion surtout pour faire autre chose à côté. C'est la réalité.
Mais en fait, moi j'ai l'impression que là, le confinement avec tout ce télétravail, il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte que déjà il y a des gens qui parlent pour rien dire, peut-être que ça se voit plus quand c'est en vidéo, tu vois, parce que en fait, quand t'es dans un vrai bureau, que t'as mis ton costume, que tu t'assois et compagnie, tu dis, tout ce qui va être dit, c'est important, et au final, même si le gars, il t'embrouille, il passe 20 minutes à dire de la merde, tu te dis, bon, c'était important parce qu'on était au bureau, tu vois. Alors qu'en fait, maintenant, si t'es chez toi, et vu que t'as qu'un clic, là, quand le gars, il dit de la merde, t'es là, tu fais, pourquoi on le paye, lui, tu vois? Pourquoi il a le même salaire que moi, ce gars, alors qu'il a rien fait? Je pense qu'il y a plein de gens qui justifient juste leur salaire, tu vois. Ils justifient leur job en parlant, en fait. Moi, je trouve ça bizarre, en fait.
Par contre, ce qui j'ai lu un article qui était intéressant. Il parlait du caractère des personnes, enfin de comment le conjoint perçoit le caractère de son conjoint au travail.
Il y en a,
ils sont étonnés, en fait.
Ah ouais.
Genre, mais en fait, tu te fais écraser en réunion. En fait, t'es pas confiant du tout.
D'accord.
Et alors qu'à la maison, il montre qu'il est confiant avec les enfants. Et en fait, les conjoints se rendent compte, en fait, du caractère de leur...
De la hiérarchie qui est pas du tout la même ou des trucs comme ça. Ouais.
Ouais, voilà, ils se rendent compte que leur mari, en fait, il est pas comme ça à la maison, quoi.
Ouais. Mais
et ça peut être dans le
ouais, l'inverse. Ouais. Mais en fait, c'est la preuve que c'est un jeu de rôle, quoi. Dès que tu vas au travail, c'est du JDR, en fait.
Un petit peu,
mais là, on est en réunion quelque part.
mais là, nous, on propose quelque chose, on propose un contenu.
Oui, mais des fois, ça m'intéresse, des fois, je décroche, je suis dans mes pensées, donc c'est exactement le même processus, quoi.
Surtout la personne qui va écouter, quoi. Déjà, elle va zapper 10 minutes, 13 minutes, là, elle va zapper.
Donc en fait, si quelqu'un regarde ce podcast, il vient s'infliger une réunion. En fait. une réunion de plus.
Est-ce qu'au final, c'est vrai que les podcasts, de manière générale, c'est des réunions? C'est des réunions, c'est des soit réunions, en tête à tête, soit à trois.
Et du coup, tu, sur le podcast, tu peux dire que, genre, par exemple, à 15 minutes, on va parler de la chloroquine et à 20 minutes, on va parler de.
Bah, dans le descriptif,
de,
tu
de
veux
Michel
dire.
De Michel qui oui. s'est fait tabasser, tu vois. Et, mais si
ouais.
tu. Ah oui,
c'est bah, je, oui, je pourrais faire ça. Je t'avoue que je vais pas le faire. Ouais.
Le mec qui va écouter là, déjà, il sera perdu pendant 14 minutes.
Non, mais moi, je le fais pas. Moi, j'ai pas besoin de. Enfin, tu vois, moi, j'écoute des podcasts de 3 heures. Ça passe de sujet en sujet. J'ai pas besoin qu'on me dise là, on va parler pile de ça. Je faisais ça pour fin de séance, tu sais, parce... mais parce que on parlait de films. Et donc, c'est pas mal, je pense, pour les gens de se dire, bon, ok, ouais, de là à là, j'ai pas envie de me faire spoiler pour un autre film, donc j'écoute pas, tu vois. Mais
parce que sur YouTube maintenant tu peux ouais. tu peux ouais. couper les enfin mais... diviser les vidéos et tu vois les parties qui t'intéressent en fait.
Ouais, mais moi les gens qui veulent écouter mon podcast comme ça, j'autorise pas. Ils ont qu'à pas écouter.
Mais de toute façon, les auditeurs de podcast, c'est des gens qui ont faim de réunions quelque part. Par exemple, toi Areski, tu fais des podcasts et tu écoutes des podcasts parce que justement dans ton,
j'ai pas
dans
de
ton travail, tu n'as pas de réunions.
Non mais c'est possible, ah ouais, c'est en vrai. C'est possible. Hein.
Bah, mais il a pas d'enfants aussi.
Parce que tu fais des réunions avec tes enfants.
Non, parce que j'ai pas le temps d'écouter des podcasts.
Ben, non, si, au contraire, je pense. Si tu l'as en fond, tu mets des podcasts pendant que tu t'occupes des
ouais, gosses, mais tu te concentres pas sur ce qui
ouais, est... mais justement, tu mets ce podcast-là, on va rien raconter d'intéressant. Et aussi, il y a des trucs dans notre groupe d'amis qui sont rares, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui changent de métier un peu. Non? Parce que PJ, t'as changé de métier un peu, non?
Ouais, plusieurs fois. Oui, ouais. Bah, je suis en ce qu'on appelle en disponibilité. C'est-à-dire que je peux redevenir prof, ou je suis censé redevenir prof au bout d'un certain nombre d'années.
Ah, ok, donc en fait, t'es en stase, quoi.
Et tu peux je suis en stase, exactement.
Prendre là où t'as... Tu perds pas genre des points ou des choses comme ça, c'est ça?
Non, t'en gagnes pas et t'en perds pas, t'es en stase.
Ok, t'es en cryogène.
C'est comme quand j'ai quitté la gendarmerie. Pendant 4 voilà. ans, en fait, j'étais... À tout moment, je pouvais dire « fuck, je reviens », quoi.
T'as démissionné ou pas?
Mais moi j'ai démissionné, ouais.
Ah voilà. Au bout de t'as passé fois, le cap, ouais.
Ah. Tous les 2 ans en fait, ils te demandent.
Attends, vas-y, on finit page, ensuite on va arriver ouais. au truc.
Donc ben voilà, il a fait ce que je n'ai pas encore réussi à faire, c'est-à-dire démissionner. Peut-être un jour je le ferai.
Parce que là maintenant tu es EduxP.
Non. Ouais. Et surtout, je travaille surtout dans une ludothèque. Ça c'est ça le plus important.
Ouais. Parce qu'en fait, ouais, c'est marrant parce que tu pourrais être EduxP mais ailleurs et ce serait pendaison quoi pour toi.
Pas nécessairement, mais dans le social, oui, il y a des endroits où il fait pas bon être EduxP parce que les conditions de travail sont pas bonnes parce que le social va pas forcément bien parce qu'il y a pas beaucoup de moyens. Mmh. Et du coup, là, je mixe le côté social avec le côté jeu de société qui est tout simplement c'est
là d'où on vient quoi.
Ça fait un mix parfait quoi, c'est une fusion parfaite.
Ouais.
Et c'est là d'où on vient exactement.
Mais
d'ailleurs, c'est ouvert actuellement ou avec le Covid, c'est un peu compliqué.
Le fait que tu puisses pas répondre par un oui ou par un non à cette question, ça me semble bizarre.
C'est ça. J'ai peur que
au travail la journée.
Si jamais ce podcast est écouté par ma responsable ou par mes collègues.
Ouais.
Tu vois comment faire en fait.
C'est parce qu'on
sait tous un jour que Areski va devenir célèbre. Et du coup.
Et t'as le droit de dire ce que tu veux. Je les connais pas tes collègues, mais je sais que t'es plus intelligent que tes collègues déjà de base.
Voilà, ma question c'était juste est-ce que les ludothèques sont ouvertes quoi, c'est tout.
Est-ce que les ou est-ce que ma
la tienne.
Les ludothèques en général ou la tienne ouais.
En général. Non mais en fait c'est dramatique cette situation parce que vraiment tout ce que ça supprime de par rapport au développement des enfants
ouais.
et à leur besoin de jeu, tout le côté tactile, exploration de l'espace, de manipulation et tout, enfin c'est triste quoi. Je me demande quels effets ça va avoir sur les enfants en fait à long terme comme ça.
Tu penses qu'il y aura un effet à long terme? Parce que moi je me dis pas, bah après le problème c'est que je sais pas quand est-ce que ça va finir.
Il faut pas que ça dure.
Ouais voilà parce que moi je me dis écoute Je vois bien un gosse de, qui, je sais pas, qui a 15 ans, dans 10 ans, dire « Ah ouais, putain, c'est vrai, il y avait une année où tout le monde portait des masques, quoi. » Tu vois ce que... C'est là, il... Mais la question, c'est combien de temps ça va durer? Parce que si ça dure qu'un an, enfin, c'est-à-dire que là, j'en sais rien, si à partir du printemps 2021, tout va un peu mieux, ou l'été, ou j'en sais rien, ce sera voilà, un event comme, je sais pas, il y a des gens, peut-être, ils ont vécu dans un pays où il y a eu un énorme séisme, et ils ont dû déménager, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, ça, tout le monde a un trauma de catastrophe naturelle, tu vois. Mais si ça dure plus longtemps, c'est vrai que du coup, dans la formation cérébrale de gosses, tu penses que du coup, c'est des, les gosses, ils vont plus se toucher, du coup?
Vu qu'ils... Il y a, le, finalement, le, ce qu'ils peuvent explorer, les petits enfants, ce qu'ils peuvent explorer, ce qu'on leur donne à explorer, c'est appauvri, en fait. Parce que tous les espaces de jeux, de machin, tout à cause des mesures sanitaires, je dis pas qu'il faut pas, hein, mais tout est appauvri, tout est aseptisé, du coup c'est beaucoup moins riche en fait. Surtout pour les plus petits.
Ouais.
Et en plus de ça, je pense que voir des adultes toute la journée qui ont des masques.
Ah ouais, pour la lecture des expressions.
La lecture des émotions, ouais. Des expressions. Alors après, ils s'adaptent, hein. Je pense qu'ils ont des capacités d'adaptation, mais ouais. ça me questionne quand même.
C'est intéressant ça.
Genre, ouais. C'est triste, mais ne serait-ce un exemple parmi d'autres. De se dire que, par exemple, à la ludothèque, on peut pas leur mettre de déguisement. Voilà. Ils peuvent plus se déguiser. Quand t'es petit, que tu joues à faire semblant.
Ouais.
À faire semblant d'être, j'en sais rien, moi, un cuistot, une infirmière, j'en sais rien. Bah, tu peux pas te déguiser, en fait. Parce que le tissu, c'est pas possible.
Et puis, je me doute que les personnes, souvent, qui viennent à la ludothèque, je pense pas tout le monde, mais une majorité, c'est des gens qui, ou des enfants qui ont pas les moyens de faire ça, peut-être ouais. Chez eux. Et du coup, c'est un endroit qui leur permet un peu de se...
Ouais.
Se libérer ou de faire autre chose et
c'est comme si la bouée de secours elle était percée quoi en fait.
C'est un endroit où tu peux jouer peut-être de manière plus privilégiée que chez toi quand t'as un chez toi pas terrible quoi.
Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, parce que moi je prends l'exemple de d'Arthur où je sais qu'il a des déguisements, il a des Legos, il a un cadre qui fait qu'il peut jouer.
C'est parce qu'il a un père qui fait des réunions et tout ça. Qui peut...
je pense voilà à des enfants qui
oui.
Voilà qui vivent dans des endroits où ils ont pas de lieu, ils ont pas.
Mais est-ce que toi du coup PJ, parce que j'ai l'impression que aussi là, si tu passes de prof à EduxP, j'ai l'impression que aussi tu vas vers ce que le gouvernement, enfin ou en tout cas les institutions dans lesquelles le gouvernement met de moins en moins d'argent à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai l'impression que déjà je sais pas qui responsable de tous les EduxP, mais j'imagine que déjà il y a moins d'argent que l'éducation nationale, enfin pour les profs, j'allais dire dans les classes normales, je sais pas, et que là c'est typiquement l'endroit où il y a de moins en moins d'argent quoi.
Je pense que c'est logé à la même enseigne que l'éducation nationale.
Okay.
Après, il y a des disparités, ça dépend où tu travailles, dans quel type de structure sociale ou médico-sociale tu travailles. J'ai tendance à dire que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'éducation spécialisée, tu peux mettre tous les moyens que tu veux, il y en a jamais assez. Tu peux toujours faire mieux,
oui,
en fait.
Oui.
À partir du moment où t'es là pour accompagner des gens à faire face à des difficultés ou accompagner des gens à apprendre.
Ouais. Il y a pas de limite.
Il y a jamais assez de moyens. C'est pas possible qu'il y ait assez de moyens. C'est jamais possible.
Ouais.
Tu peux toujours faire mieux en fait.
Ouais, mais ça c'est marrant. Parce que, du coup, où est-ce que tu mets un minimum en fait? Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que tu peux dire là, on a clairement pas assez? Parce qu'en fait, je comprends le truc de oui, forcément pour aider des gens, il y a pas de limite max vu que même pour, enfin tu vois, c'est genre un yacht. Tout le monde a un yacht dans la classe. Allez, tout va bien. Nous, à l'époque, au collège et au lycée où on était, c'était des trucs publics, mais à Albi, c'est des trucs... Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait manqué de rétroprojecteurs, tu vois. mais je sais pas, j'entends des histoires d'Alexandre, un autre pote qui est prof, où je me dis, ah ouais, enfin, il y a quand même des grosses limitations si tu peux pas juste même donner le programme minimum à tes patients, j'allais dire, à tes élèves. Non? Ou c'est toujours jouable pour toi, tu crois?
Non, c'est pas toujours jouable parce que moi si je comptais tout ce que j'avais dépensé sur mon salaire
Ouais,
perso quand
voilà.
j'étais prof
Mais c'est ça. Et
pour
ça me fait penser, moi, tu vois, par exemple, la maîtresse, elle me demandait, l'autre fois, elle cherchait un parent pour faire des photocopies. Et ça,
Ouais,
j'ai dit
c'est
OK, je les ai fait au bureau en secret, tu vois. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre
Oui.
comment ça se fait qu'elle puisse pas faire 30 photocopies.
Ouais, ça c'est
Et en
n'importe
fait,
quoi.
c'est de l'extra par rapport à ce qu'ils ont comme moyen. Et je trouve ça fou. Et en discutant, j'ai des voisins qui sont profs de sport. Mais en fait, ils me disaient que l'école où va Arthur, c'est une école, en gros, c'est une école qui est pas dans qui est pas une école prioritaire comme ils appellent ça. Et du coup, ils ont pas de moyens. Ils ont les moyens, comme tu disais, des moyens minimums en fait.
Ouais, mais moi, à
Et des écoles
partir.
qui sont plus dans des quartiers prioritaires, etc. Ils ont beaucoup plus de moyens. Et du coup, tu vois, t'as un palier où l'école qui est pas prioritaire, finalement, elle a le minimum de moyens
Mais le truc,
et je trouve ça fou, quoi.
moi, qu'un prof, effectivement, ait besoin d'aide extérieure pour faire des photocopies, moi, ça me semble. Mais c'est pour ça, là, j'adore ce qu'on est en train de faire dans ce podcast. Parce qu'en fait, moi, j'entends jamais ça. En fait, j'entends jamais ça dans des podcasts, tu vois, de la vie normale, en fait. Parce que les gens, ils savent pas où est la moyenne de la vie. Et moi, tu me dis, mon enfant, il a un prof qui est obligé d'aller quémander des trucs pour faire des photocopies. Je veux dire, j'imagine que du coup, il y a des milliers de cas comme ça en France. Et je me dis, mais c'est pas possible. Jamais on s'était dit, nous, que nos profs, à la limite, tu vois, tu les voyais, les profs qui faisaient genre le extra truc, mais c'était, je sais pas, c'était pour rajouter des choses ou pour faire venir un pote à eux pour nous parler de quelque chose. Enfin, tu sentais que c'était vraiment facultatif, quoi. L'énergie qu'ils dépensaient pour les choses en plus. Si là, les gens, ils sont obligés de dépenser de l'énergie pour avoir des photocopies, tu te dis, bon, bah,
Et ça va au-delà de ça parce que en plus avec le Covid et j'ai trouvé ça fou. Alors en pleine crise Covid, les profs qui font grève.
Ouais.
Du coup, moi j'ai demandé direct à la maîtresse. J'ai dit mais pourquoi du coup vous faites grève? Et t'as l'institutrice, elle me dit on n'a pas de gel hydroalcoolique,
Ouais.
on n'a plus de masque. J'ai trouvé ça fou quoi. Il doit être une dizaine de profs et ils réclament juste ça quoi,
Oui,
le
oui.
minimum en fait.
Bah
Et même le
de
minimum, ils
sécurité
l'avaient pas.
sanitaire,
Et en fait, du coup, je disais, mais il y a un énorme contraste entre des annonces en fait qui sont faites générales,
oui. Ouais, et la réalité.
oui, ouais, et la réalité en fait quand toi tu vas amener ton gosse à l'école quoi. Après, c'est peut-être pas le cas de toutes les écoles, mais
C'est pareil en tant que dentiste, là, le second confinement, ils ont ouvert ils ont dit les dentistes peuvent travailler, mais en même temps, il y a zéro masque distribué, parce que c'est des masques spéciaux, du coup, si tu dois. Alors qu'en fait, littéralement, tu travailles dans la vaporisation de la salive, l'endroit
Ah oui,
où il y
quand
a du
même.
Covid, quoi. Donc, en fait, je sais pas, il y a le côté, oui, comme tu dis, il y a le côté, écoutez, on gère tout, il n'y a pas de souci, on fait le maximum, et en fait, tu réalises que, ben non, en fait, j'ai l'impression que vous branlez pas grand-chose, quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'est, je sais pas si c'est le conseil, je sais pas, il y a un truc genre le conseil sénatorial ou un truc comme ça, qui ont un peu investi, une commission d'enquête en gros sur comment a été géré le Covid par le gouvernement, et qui est assez accablante parce que en gros ils ont dit que, voilà, probablement qu'ils faisaient des réunions quoi. Ils
Ouais,
faisaient
je
des
pense que c'est
réunions
ça
qui servaient
surtout.
à rien et aucune décision n'était prise, donc c'est un peu. Et du coup, ouais, pour finir sur le truc du budget de l'éducation nationale ou des trucs, est-ce que tu as senti que justement toi-même, il y avait de moins en moins de choses ou pas, enfin ou pas spécialement ou ça dépend tellement des endroits où t'es que tu peux pas tirer de conclusion.
Non, j'ai pas senti de moins en moins, mais il y a un moment donné où tu te dis, pendant des années, j'ai acheté des trucs sur mon salaire perso,
Ah ben oui, c'est
et
vrai.
c'est pas normal en fait.
Ouais.
Et au bout d'un moment, tu te dis, je veux plus le faire.
Oui.
Et du coup, tu le fais plus. Et
Ouais.
du coup, tu te dis, mais c'est moins riche ce que je propose du coup.
Ouais.
Et voilà. Et c'est pas
Oui, parce que
possible.
sur tes propres deniers, tu as mis un standard sur lequel tu t'es habitué en termes d'éducation que tu peux plus soutenir si tu continues pas à donner
C'est ça.
toi-même ton salaire, quoi.
C'est ça, exactement.
C'est marrant parce que je pense pas que ce soit juste l'éducation nationale, parce que moi j'étais du coup en gendarmerie. Alors à l'époque où j'étais, c'était pareil, c'est-à-dire qu'on te donne un matériel minimum, mais avec ce matériel minimum, t'es pas
T'es
efficace quoi.
pas, ouais, ni
Du
efficace ni
coup,
protégé.
ni protégé, oui, mais pas efficace quoi.
Ok.
T'as juste le bâton, le gilet pare-balles, démerde-toi.
Tu veux dire que t'as
Et
acheté des silencieux pour pistolet sur un marché noir, quoi.
non, mais t'achètes une ceinture qui te fait moins mal au dos, t'achètes
Ah
un porte-bâton qui tient, parce que celui qu'on te file, ton bâton, il tombe toutes les 5 minutes.
T'as fait ça? Je
Ben, tu vois,
savais pas.
ben, t'es obligé, parce qu'en fait,
Ah.
dans la, dans le,
C'est marrant,
quand
ça.
t'es dans l'opérationnel, en fait, t'es obligé d'avoir du bon matériel, parce que sinon,
Vas-y, on
tu
va
traînes, quoi.
rembobiner un peu parce que du coup, Ben, dans nos études aussi, on était coloc. Et donc, t'as
C'est
fait de
vrai.
l'ingénierie civile, donc pour faire des trucs de construction, quoi. Parce que t'avais même commencé à bosser avant.
Faire du béton,
Ouais,
des
faire du
Lego.
béton, dire si le mur est porteur ou pas en tapant dessus et tout. Serait tant bien qu'il y ait
Du
un
calcul.
cours, il y a un cours de tapage sur des murs, tu sais. Ouais, c'est
Non, mais
porteur.
t'as un cours de pour casser des poutres, tu fais ça à la fac. C'est vrai? Avec une machine? Non, mais c'est une machine qui met un poids et qui casse les
Et
poutres.
attends, mais rappelle-moi, du coup, t'as décidé de rentrer dans la gendarmerie combien de temps après avoir commencé à avoir tes premiers salaires en bureau d'études?
J'ai 1 an et demi, 2 ans après
Ok,
avoir
2 ans.
commencé.
En fait, il en avait marre de taper sur des murs, il avait envie de taper sur des manifestants.
Attends, mais en fait c'est trop marrant parce que moi je me souviens à l'époque j'étais trop en mode tu sais mec suis tes envies suis tes rêves tu vois probablement que déjà en plus dans ma tête j'étais en mode peut-être que moi aussi à un certain moment je voudrais faire autre chose tu vois donc c'était mais
Tout à fait.
comment ça, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé dans ta tête bon bien entendu on est tous fans de 24 heures chrono mais qu'est-ce qui a fait que toi
Non,
tu
je sais.
t'étais dit genre bah j'y vais vraiment quoi. Je tente le truc.
Ben alors déjà, ça m'était venu, ça me venait, ça m'est venu même avant de travailler, pendant le collège, le lycée,
Ouais.
et je voulais partir même après le bac en fait. Je voulais même directement aller dans l'armée. Mais j'étais pas trop mauvais à l'école. Et puis un jour, je suis arrivé à la maison, j'avais 18 ans, j'arrive à la maison et mon père, en fait, il m'avait fait mes bagages, quoi. Et il m'avait mis les bagages devant la maison et il m'a dit, bah, vas-y,
C'est pas vrai, j'avais oublié ça.
si tu
Ça,
veux
c'est
y aller,
clair.
écoute, je te retiens pas, vas-y. Puis toi, t'as 18 ans, tu viens de fêter ton bac, t'es content et tout, t'arrives et en fait, t'as les bagages devant la maison et on te dit, tu vas partir et là, en fait, tu fais, bon,
Parce qu'en vrai, il
tu reprends tes bagages, tu vas dans la maison, tu fais, allez, je vais travailler un peu.
Oui, genre, elle est bien ma couette quand même par rapport
Tu reprends tes bagages
à aller
et
en
tu fais tes
Syrie.
études d'ingénieur.
Et j'avais la réalité en pleine gueule et je me suis dit bon, on va attendre un peu.
Il faut situer le contexte, peut-être parce que ton père, il est genre vachement de gauche et tout, non, c'est ça? Non, pas
Non,
spécialement.
c'est un faux de
C'est
gauche
un
en
faux
fait.
de gauche.
Ouais, non, en fait, c'est un riche qui plaint les pauvres mais qui donne pas, tu vois. Non, mais c'est
Ah bah
vrai.
après, en fait, j'ai envie
Mais
de dire, c'est un bobo, quoi,
alors
comme tout le
il
monde.
est super gentil, tu vois, il vote Mélenchon et tout, c'est rigolo. Mais il a jamais donné 10 euros au Resto du Cœur, tu vois. Tu vois le
Ouais,
contraste, c'est bizarre,
intéressant.
quoi. C'est
Non, non.
pour ça, voilà,
En
enfin
tout
bon.
cas, après, dans la
Mais
longue
il était
lignée et
très,
tradition
très
française, oui,
antimilitariste, quoi.
voilà, antimilitariste et anticlérical, quoi. Un peu.
Voilà, mais après, il
Comme tout
faisait
le
mai
monde.
68, voilà, ouais, enfin bon, voilà. Et du coup, voilà, donc, ben, après, j'ai continué mes études, j'ai bossé, et en fait, cette idée-là, elle me trottait toujours. Et en fait, moi, je le considère un peu comme un peu ma crise d'adolescence, mais du coup, qui est arrivée plus
Après
tard.
quoi,
Et envie de faire un truc pour moi,
Là, de l'avoir choisi de A à Z quoi.
choisi, voir ce que je pouvais faire, et puis essayer de me dépasser aussi, parce que voilà, il fallait la faire l'année d'école, quoi, c'était particulier. Enfin, me prouver des choses, quoi, je voulais me prouver des choses, et puis aussi partir un petit peu, voilà, on habitait à Albi, on a fait des études à Toulouse, je suis revenu à Albi travailler.
Ouais,
Voilà, j'ai envie de bouger,
voir
quoi.
autre chose, quoi.
Voilà,
Ouais.
bouger, quoi. Je te dis, c'est la crise d'adolescence à
Ouais,
26 ans,
non, mais
quoi.
c'est vraiment, enfin, je vais dire, c'est assez, C'est assez classique dans la réalisation de soi-même. Ouais.
Ouais, dans mon boulot actuel, il y a des gens qui avaient mon âge, enfin qui ont 26 ans, tu vois, 26, 27 ans. Et je sens qu'ils ont envie de faire autre chose, de se barrer. Ouais. Et je me revois, moi, 10 ans avant, en fait. Et je pense que, voilà, on passe tous par une phase où, à un moment donné, on se dit ouais. Est-ce que ce qu'on fait,
c'est ce qu'on veut faire.
Ce qu'on veut faire,
ouais. Tu te sens. On rentrera juste après, mais tu te sens mieux là toi-même d'avoir fait ça et de te
ouais,
rendre compte.
Parce qu'en fait, moi je considère qu'il faut pas. Je voulais pas regretter en fait.
Oui.
Et tu vois, je l'ai fait. Il y a eu des points positifs. Il y a des choses où j'ai complètement déchanté. Et finalement, j'ai vu ce que c'était. Et voilà, j'ai fait mon chemin. Et puis, je suis passé à autre chose. Et voilà, je pourrais dire, je l'ai fait. Et je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie de me dire. Si
ouais, oui, si c'est clair. Ça. Et même t'aurais fantasmé des trucs en mode peut-être, peut-être ma carrière, elle aurait dû se faire dedans, alors qu'en fait pas forcément, mais c'est juste t'as pas tenté quoi. Ouais. Mmh. Et c'est quoi là? Parce que j'imagine ton profil était rare en fait à l'école de gendarmerie, à la police académie.
Déjà, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais attends, t'avais un master 2 et t'as pas tenté le concours officier?
Oui.
Déjà, c'est une grosse question. Pourquoi t'as fait gendarme? Et en fait, quand je suis rentré après en gendarmerie et que j'ai vu comment étaient les officiers ou fonctionnaient les officiers, et finalement, je me suis dit, j'ai bien fait de pas le faire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il fonctionnait.
Mais en fait, si tu veux, moi, ce que je recherchais, c'était
l'action.
C'était non, mais c'était plus un esprit, peut-être un esprit de corps avec. Avec des potes, enfin un esprit d'équipe, etc. Et en fait, quand
t'es officier, t'es plus. Oui,
les officiers sont tout seuls, quoi.
Ouais.
Ils font leur vie, ils gèrent leur mec, mais après, tu vois qu'il y a. Alors, du moins, gendarmerie, parce que c'est quand même militaire, donc il y a quand même la hiérarchie. Il y a vraiment un clivage, quoi.
Oui, oui.
Et je me suis plus éclaté.
Mais oui, c'est clair, dans Band of Brothers, il n'y a jamais eu des officiers ensemble qui buvaient du café, quoi. Tu regardais
c'est
les trucs.
Et moi, je ne recherchais pas. Je suis allé là, c'était pas pour chercher l'excellence de l'officier, machin. Ouais. C'est pas du tout ça que je cherchais. C'était un petit peu l'aventure, un petit peu, voilà. Mm-hmm. Des choses que j'aurais pas fait si j'avais fait officier, je pense.
Ouais. Et du coup, oui, tout ça pour dire qu'en fait, oui, tu n'étais pas avec les gens qui ont fait un Master 2, quoi.
Pas du tout, mais il y en avait. Il y avait des
licences,
des
masters
aussi.
Ouais.
Il y en avait quelques-uns. Mais après, c'est pas dit que si j'étais resté, j'aurais peut-être pu tenter le concours en interne, tu vois.
Oui, oui.
J'aurais pu faire, voilà.
Ouais.
Mais et d'ailleurs, c'est les officiers qui sont passés par la classe gendarme, en fait, ils sont mieux vus que ceux qui passent directement par l'école d'officier.
Oui, parce que t'as connu ce que connaissent tes hommes.
Ils ont connu en fait exactement. Ouais. Et ça c'était voilà. Mais voilà, c'était une bonne expérience.
Mais du coup, ouais, et pourquoi du coup t'as arrêté alors?
Bah après, ça c'était plus des choix personnels par rapport à du coup à ma femme.
À la vie de famille en fait.
À la vie de famille, et tu sais comme elle est brésilienne en fait, ça a été un moment de où elle était revenue travailler au Brésil. À un moment donné, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, elle a décidé de venir vivre en France, donc un petit peu sacrifier sa famille. Et moi j'ai dit bon allez, je quitte la gendarmerie et on se retrouve ensemble et on commence une vie ensemble quoi. Quand la gendarmerie c'était impossible de si elle travaillait, c'était impossible de
oui parce que
au même endroit c'était
oui, t'es obligé de bouger en fait, c'est ça. Mais du coup t'aurais imagine si tu bougeais pas, t'aurais continué du coup à être gendarme ou pas? Parce qu'il y a non.
Si je bougeais pas,
enfin j'en sais rien, si t'étais affecté qu'à une ville, tu vois ce que je veux dire.
Non, moi je pense que si j'avais pas rencontré Jacqueline avant la gendarmerie, je pense que peut-être que je serais resté.
C'est ah ouais, jusqu'à maintenant du coup.
Bah ouais, mais j'aurais peut-être fait autre chose, je me serais spécialisé, j'aurais fait le concours officier, j'en sais rien, j'aurais fait. Mmh. Je pense que je.
Moi mais, je me souviens que genre quand tu venais t'avais arrêté des gendarmes et tout, tu nous disais genre ah mais je me sentais devenir de droite.
Bon, bah après c'est sûr que tu vois des choses que tu imagines pas, mais
que t'es pas censé vivre tous les jours quoi pour un humain.
Ouais, c'est ça. Alors, mais je pense qu'il y en a qui avaient des bons fonds, mais qui et je pense que le quotidien les fait se faire venir, enfin devenir de droite en fait.
Mmh.
Enfin, quand je dis de droite, mais peut-être devenir raciste, devenir
ouais.
devenir violent, devenir Je pense que c'est plus le quotidien que la, comment dire, que le caractère
oui, initial, de la personne. Oui, bien sûr. Mais moi, ouais, moi, j'y crois à mort. Parce que, mais rien que tu vois l'exemple que tu as donné de fait de... Tu vois, de devoir t'acheter, par exemple, une ceinture qui fait que ben, ça te fait pas mal. Mine de rien, en fait, moi, pour moi, cet exemple, ça veut tout dire, en fait. Parce qu'il y a le côté, en fait, où... Tu sais, c'est des petites choses, mais quand ça s'accumule, au bout d'un moment, ben, en fait, tu en peux vite plus. C'est-à-dire qu'en oui, gros, tu vois, l'énergie que t'as à allouer dans une journée, où effectivement, t'es gendarme, tu te dis, OK, j'ai l'énergie d'être gentil, normal, pour me prendre genre 15 insultes, pour avoir une ceinture qui va pas, pour ramasser mon bâton parce qu'il tombe, jusqu'à 14 heures, en fait.
Et mais pas avoir après le polo, 14 quand, ans. En plein hiver, quand t'as froid et que t'es obligé de t'acheter voilà. Des damars à 70 euros parce que.
Exactement. Et du coup, ok, j'ai cette énergie pour faire ça jusqu'à 14 heures, mais de 14 à 18 ou à 19, bah, c'est là que j'ai commencé à devenir irritable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ouais, multiplies ça par tous les jours. Je me dis, n'importe quel humain, mais, en mais fait, il n'est pas fait pour faire ça. Toutes les heures de la journée.
Et attends, ce qui est pire et ce que j'ai vu, donc moi du coup j'étais en mobile, donc c'est l'équivalent de CRS mais en gendarmerie. Mmh. Et en fait, en sachant que nous en mobile, donc on intervenait sur des manifestations, mais de temps en temps on va dans des renforts de brigade, donc en fait on fait autre chose, on fait de la garde aussi, etc. Ouais.
Mais de brigade, toujours deux gendarmeries du coup.
Ça. De brigade de gendarmerie, mais par contre, du coup, tu fais du travail de vraiment de. Tu peux faire de l'enquête, des accidents, okay. Etc. Tu fais du. Voilà. Mais par contre, si tu prends des compagnies de CRS, donc police, par exemple, qui sont affectées à Paris,
ouais.
Ça veut dire que le mec, toute la journée.
Ah, il fait que ça.
Il fait que de la manif toute la journée.
En fait, oui, ils sont spécialisés. Toute
la journée,
ouais.
Il se prend des insultes, il se prend des cailloux dans la gueule. Et donc, en fait, je pense que les mecs. Ils deviennent tarés, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas.
Ah, mais oui, si, c'est normal. Enfin, c'est
parce
pas...
qu'en fait, ils font que ça. Oui. Et c'est pour ça que...
En fait, je vois pas...
Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur une manif où c'était, je crois que c'était des mecs de Otis, tu sais, les ascenseurs. Là. Je sais plus pourquoi ils faisaient grève. et en fait...
pour l'ascenseur
social. Ils
venaient
social. Nous voir. Et en fait, il y avait des groupes qui venaient vers nous. Ils disaient, mais vous êtes plus cool. On vous aime bien, et en fait, ils expliquaient qu'en gros, les gendarmes mobiles étaient plus cool, parce que les autres, en fait, ils sont tellement, ouais. Je sais pas, ils font ça toute la journée, c'est des robots, en fait. Mais et au moindre truc, ils tapent, quoi.
Mais en fait,
au lieu de discuter,
genre,
tu vois.
C'est normal, parce que ça veut dire que toi, imagine, ben, gendarmerie mobile, à un moment, vous êtes affecté à autre chose. Par accident, il y a quelqu'un, il va te dire merci. Tu vois.
Oui, voilà.
Et en fait, personne, je ne vois pas une personne qui pourrait dire merci à un CRS. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je suis d'accord.
Un CRS, enfin, le gars, il sort que pour contrer le, enfin, pas contrer le peuple, mais bon, soi-disant faire la sécurité du truc. Mais bon, on sait très bien que il y a des dérapages. Du coup, à aucun moment, il y a quelqu'un qui va, enfin, je sais pas, je vois mal un CRS dire, ah, vous avez perdu un stylo, tenez. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
oh, c'est un peu cliché, mais.
Non, mais oui, mais tu vois ce que, non, mais ce non, que mais je veux dire, c'est que du coup, c'est... dans sa tête, le gars, toute la journée, et même son job, c'est aller à la guerre, quoi, en fait.
Oui, mais, et du coup, j'en reviens, c'est pareil, du coup, on va venir à ce qui s'est passé, parce que je pense que ça t'intéressait, c'est ça que tu voulais savoir, mon point de vue, sur ce qui s'est passé, là, sur la vidéo, là, qui est sortie.
Aussi, ouais.
C'est si que les mecs, ouais. Sans, alors, ce qu'ils ont fait, c'est abusé, quand tu vois la vidéo, c'est quand même abusé, mais sans les défendre, je pense que s'il faut, si tu regardes, faut regarder leur CV, etc., où ils ont travaillé, etc. Mais mmh. Et si c'est des mecs qui travaillent, je dis une connerie, si ça fait 5 ans qu'ils travaillent dans des cités difficiles ou dans des quartiers difficiles, mais c'est pareil, tous les jours, un petit peu, entre guillemets, ils sont en tension, ils sont. Et du coup, c'est possible qu'à un moment donné, le mec, il perd son sang-froid. Et du coup, il y a personne qui les contrôle, quoi.
Ouais. Bah, en fait, oui, mais
du coup. Il y a peut-être un suivi psychologique qui est pas fait et
Sûrement, non. Enfin, vous étiez suivi, vous, psychologiquement?
Non. T'es suivi que si vraiment il y a un
problème. Ouais, voilà, déjà, il y a un problème.
Si tu deviens sur un accident d'enfant ou des trucs comme ça, mais.
Mais même comme tu le dis, enfin, c'est-à-dire, je suis d'accord, c'est pas, genre, ça n'excuse rien ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tout est compréhensible de tout coup. Bon, déjà, de base, oui. Tu ne tabasses pas une personne, enfin, je l'ai déjà dit, mais.
Ah oui, c'est clair.
Normalement, encore une fois, enfin, Hannibal Lecter, t'es censé pas le frapper et l'amener à la justice. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ton travail.
Ouais, ouais, non, mais c'est sûr.
Donc, si tu veux, oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le côté genre, oui, c'est possible que, en fait, c'est des gens, s'ils ont travaillé dans des conditions difficiles pendant longtemps, en gros, ben, en fait, c'est simple, c'est en plus médicalement probablement vrai, c'est un syndrome post-traumatique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait,
ouais, c'est possible. Hein.
C'est comme si tu disais, c'est comme si tu disais à un pédophile, vas-y, babysit-moi mon gosse, quoi. Ben, en fait, tu choisis, t'es en train de mal choisir la personne pour faire ouais, ce job, ça. En fait.
Mmh. Après, ça enlève pas, j'ai pas tout regardé, mais, là, ça va être une idée plus générale, mais
oui.
Je trouve fou quand même qu'on, ben ça, c'est, je sais pas, c'est peut-être les infos en continu, mais c'est toujours pareil. Il y a eu une vidéo qui est sortie, et du coup, ça a déclenché énormément de choses, mais jamais personne s'est posé la question du contexte de la vidéo, en fait, se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en soient là, en fait, déjà. Personne s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé avant, en fait. Pourquoi ils sont en train de le tabasser? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? On entend très peu. On entend juste, voilà, il y a des flics qui ont tabassé un mec dans un studio. Déjà, pour que les flics arrivent dans le studio, il a dû se passer quelque chose, quoi. Donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Donc moi, de ce que j'ai cru comprendre, il y a eu un contrôle qui a dérapé. Le mec, il est parti en courant dans son truc. Ils ont voulu le choper. Et voilà, ça fait comme ça. Mais il y a quand même un démarrage, enfin il y a un contexte quoi.
Mais enfin après en fait c'est ça le truc, c'est qu'aussi un peu importe, c'est-à-dire qu'en fait le gars, s'il y a un gars pas armé, t'es pas censé le taper, ça je
oui,
pense
oui,
c'est surtout
non,
ça
je
le
suis
truc.
D'accord, je suis d'accord.
Mais après
on remet jamais dans le contexte de une vidéo comme ça quoi. Mais on balance la vidéo c'est un peu comme le
Mais à mon avis c'est tout simple, c'est que pourquoi c'est les flics qui donnent pas ces infos parce que ils se les gardent pour peut-être changer un petit peu le dossier, c'est pas la première fois qu'ils auraient fait ça en mode
C'est possible, mais après, ce qui est ressorti de ce que j'ai vu des gardes à vue des mecs, c'est qu'en fait, ils ont, alors, il avait pas le masque, donc ils sont allés lui dire de mettre le masque, et a priori, ils ont senti du cannabis. Donc en fait, ils ont voulu le contrôler pour voir du coup s'il avait du cannabis sur lui. Et je pense que là, le mec, il a pas dû trop se laisser faire, il a vu une échappatoire parce qu'il était à côté de son studio, et il s'est barré dans son studio. Et les mecs, je pense que ça a dû leur travailler leur ego, tu vois, et leur dire non mais il va pas nous la faire quoi, et ils l'ont suivi. Alors que c'est à ce moment-là en fait où ils auraient dû dire stop, on le suit pas et on le convoque ou tu vois, ou on appelle d'autres personnes et on essaye de discuter avec lui pour.
Mais le truc systémique fait que en fait ces gens ils en ont rien à branler, c'est que de manière générale quand tu vois les stats, bah oui tu t'as les Arabes et les Noirs se font plus contrôler et se font plus emmerder. Ouais. Donc il y a le côté, il y a un côté genre un peu d'impunité dans le sens où en vrai, regarde, il y aurait pas eu la personne qui aurait filmé. Si c'était pas allé sur Twitter après, bah ça aurait été peut-être un gars comme ça se trouve, il y en a eu ce soir là.
Ouais, c'est possible.
Parce que voilà, parce que c'est toujours un peu plus facile de le faire sur des Arabes et des Noirs aussi. Faut pas.
Après, si t'exclus le fait qu'il soit noir ou arabe, moi je pense que c'est aussi le fait que plus le fait que le mec leur ait échappé, que ça les a frustrés et qu'ils se sont défoulés sur lui. Et je suis pas sûr que même
ça aurait été un petit blond qui aurait fait exactement toutes les mêmes choses, qui serait en école de commerce, qui s'appelle Jean-Eudes, il se serait pas fait taper comme ça. On peut pas dire non.
Ouais, je suis pas sûr. Après, franchement, le caractère raciste, je pense qu'il.
En fait, le caractère raciste après.
Je suis pas sûr qu'il sera relevé, tu vois, dans la finalité.
Non, mais dans une affaire, c'est toujours ultra difficile de dire il y a un caractère raciste. Mais après, quand tu dézoomes, quand tu vois les stats, tu vois ce que je veux dire, c'est surtout ça, en fait. Si tu dis, bon, qui se fait en général le plus frapper pour des trucs, c'est là que tu te dis que oui, il y a un caractère raciste en général. Parce qu'après, moi, tu vois, franchement, moi, Albi, Toulouse ou quoi que ce soit, je te l'avais dit, première fois de ma life que je me suis fait contrôler mes papiers, c'était à Paris, en fait. C'était à Paris parce que j'ai mis un sweat à capuche, tu vois. Je m'étais jamais fait contrôler à Albi ou Toulouse, tu vois. Et là, j'allais au ciné à Châtelet-Léal, voilà. Ils ont vu un mec un peu bronzé avec un sweat à capuche. Et, c'est-à-dire que, enfin, Après, c'est pareil, tu pourras toujours te dire, ah, peut-être que ça aurait été n'importe qui d'autre sous ce sweat à capuche, il l'aurait contrôlé. Et c'est pareil, c'est, si tu redézoomes, tu te dis, oui, ça me semble normal par rapport au truc ambiant. Mais tu vois, tout ce que tu dis sur le contexte, etc., c'est, en fait, c'est exactement ce que les gens ne font pas de manière générale pour les criminels. Parce qu'en fait, là, ce sont eux les criminels. Et on veut savoir quel était le contexte de leur crime. Mmh. Et pourquoi ils le font, et c'est quoi les raisons, etc. Et en fait, c'est très marrant parce que quand il y a un crime, pas par un flic, personne le fait, en fait, ça. De savoir pourquoi c'est fait, et du coup, aller régler le problème à la racine, encore une fois. Et en fait, c'est-à-dire qu'après, c'est comme tout, on va toujours dire tous les disclaimers qu'il faut, oui, 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 il y a des gens gentils dans tous les trucs, il y a probablement des filles qui sont très bien, toi-même, t'étais gendarme, etc., donc tout va bien, etc. Mais le truc, c'est qu'à un certain moment, quand est-ce qu'on va dire, bon, ben, les gars, vous pouvez être flic 4 heures par semaine, quoi. Tu vois? Et c'est tout.
Ouais.
Et je pense que 4 heures par semaine, si c'est un métier que tu veux faire, tu peux être aimable 4 heures par semaine. Ben, non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Et... Oui, parce que les mecs, s'il faut, je sais pas, s'il faut, ça faisait 8 heures qu'ils ont eu une journée de merde, et en fait, je dis.
Ouais, mais après, c'est toujours pareil, j'en ai rien à branler. C'est-à-dire que,
oui,
en fait,
c'est ça. Pas censé,
ouais, parce qu'après, il y a le gars qui a volé je sais pas quoi, on va te dire, ouais, il a eu une journée de merde en plus d'être pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Et de pas avoir à donner à manger à ce truc. Ouais, ok.
Après, je pense que. Donc je m'étais un petit peu renseigné et j'ai vu qu'ils avaient réduit, la durée de formation des policiers,
ah ouais.
Et pour qu'il y ait plus d'effectifs en fait.
Ah bah voilà.
Mais finalement ils se sont rendus compte, là j'ai vu qu'il y avait Darmanin, il avait été auditionné, ouais, ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait c'est une grosse connerie. et je pense qu'aussi dans la police, ce qui doit manquer et qu'il y avait dans la gendarmerie, c'est le côté un peu militaire aussi, parce que tu vois rarement ce genre de bavure,
oui, ça existe, mais c'est pas.
Il y a vraiment des échos de bavure.
Ouais, ouais. Oui, peut-être aussi, parce qu'il y a un côté aussi, quand il y a un ordre qui est donné.
Ouais, c'est un peu plus mécanique, quoi.
Ouais, voilà.
C'est con à dire, mais.
Oui.
Mais, je sais pas, j'ai toujours ressenti ça, en fait, en étant gendarme, c'est qu'il y avait.
Ouais, c'est possible aussi. Hein.
Le côté militaire. C'est
au moins ça limite un peu, quoi. C'est-à-dire que après c'est comme tout, mais oui, peut-être que ça limite aussi, hein.
Oui, t'as des cons et des brutes partout, mais
c'est vrai que
je pense qu'il y a moins cette idée de cacher un petit peu ce qui s'est passé.
Oui, même si ça existe pour le coup chez les militaires de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a le côté, c'est marrant parce que voilà, tu pourrais effectivement te dire il y a un truc qui se passe mal chez les militaires, tu peux remonter la chain of command pour dire qui a donné l'ordre de faire ça. Ok, tu l'as pas donné, ça veut dire que c'est tout ceux-là qui doivent être sanctionnés ou des trucs comme ça.
Ouais.
Et les flics, c'est vrai qu'on n'entend jamais, par exemple, un commissaire dire, ben en fait c'est mes flics, c'est des flics de mon commissariat. Pourquoi on n'entend jamais le gars qui est responsable de ses propres gars dire quelque chose, en fait, tu vois?
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est quand même un peu bizarre, je trouve. C'est tout le temps direct le ministre de l'Intérieur
qui
va dire tout va bien, ouais. Tout va bien. Écoutez, l'enquête suit son cours. Mais ouais, le truc de formation aussi, c'est bizarre, parce que je voyais que, toujours pareil, dans les pays nordiques où t'as l'impression qu'ils font toujours mieux que tout le monde, je sais pas, je crois qu'il faut avoir au minimum de bac plus 2 ou j'en sais rien, et avoir fait un truc de criminologie ou enfin de psychologie ou j'en sais rien. En fait, moi je trouve que c'est pas con d'avoir des gens que tu formes à désescalader des situations, en fait.
Oui, et surtout, ce qui se rendent compte maintenant aussi, et ce qu'ils vont, ils essayent d'inverser, c'est qu'en sortie d'école de police, les derniers, c'est-à-dire ceux qui, tu sais, c'est par classement, le premier il choisit où il va, etc.
Ah, okay, ouais.
Les derniers, et souvent et donc c'est des jeunes, et ils sont moins bien formés parce qu'ils sont dans le bas du classement, mais c'est eux qui se retrouvent en première ligne, dans les quartiers, dans les, alors qu'en fait, c'est des gens formés et des gens compétents qu'en fait tu devrais mettre là,
oui.
Pour gérer des situations comme ça. Et ils sont en train de s'en rendre compte maintenant, sauf que personne ne veut y aller, et alors ils sont en train de mettre en place des primes, etc. Mais un peu comme les profs.
Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est toujours pareil.
Et les profs, c'est un peu pareil. Les jeunes profs, ils démarrent et on les envoie en ZEP, etc. Dans des situations qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Alors qu'en fait, il faudrait avoir une formation et une et je sais pas comment dire, une formation et une expérience en fait de.
C'est comme les stand-upers, c'est intéressant parce que genre le gars qui dit lui-même qui dit des trucs intéressants, parce que genre tu vois tu commences à, dans des scènes moisies où personne t'écoute etc. et quand tu arrives à faire ça c'est bien. Mais le stand-up il y a aucun enjeu, tu vois ce que je veux dire? C'est genre c'est pas grave.
T'as pas d'enjeu social quoi.
Suis stupide, ça va pas, il va pas y avoir des morts quoi. Et après
oui,
par contre ça
un
peut
petit jeune,
ça
il
peut...
sort son flingue, il tire sur des gens.
Après par contre ça peut décourager des gens à continuer à faire du stand-up et tu te retrouves avec moins de gens qui font du stand-up mais qui sont peut-être plus voilà.
Mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de voilà. Démissions hein, les mecs ils font
alors,
un
alors mais c'est ça le truc
et
c'est ça
ils veulent se barrer quoi
et là par contre faire, là où justement alors que t'as besoin de profs t'as besoin peut-être je sais pas je connais pas les stats mais t'as besoin de flics et tu te retrouves avec des gens bah, qui démissionnent et d'autres qui vont finalement probablement enfin si c'est pas péter un câble, c'est au moins juste avoir traîné des traumas, on en revient, tu vois.
Du coup, tu te retrouves avec des tarés et des jeunes, quoi. C'est ça, en fait. Truc ingérable. Non, ouais, ouais.
PJ, tu crois que t'as été assez bien formé en pédagogie? Moi, j'avais l'impression, je me souviens à un moment, t'étais à l'IUFM, on est d'accord?
Ouais.
Et je sais pas, quand on en parlait à l'époque, enfin, j'avais pas l'impression que c'était basé sur de la hard science, quoi. Tu vois, de comment faire apprendre, enfin, comment enseigner à quelqu'un et comment ce quelqu'un peut plus capter ce que t'as enseigné. J'avais l'impression que c'était genre, écoutez, on a toujours fait comme ça, vous faites comme ça, quoi.
En fait, c'était trop court. C'était surtout trop infantilisant. C'est-à-dire que, je le répète et je le répéterai toute ma vie, quand j'ai voulu prendre mes cours à l'ordi, on m'a dit que je risquais de faire autre chose en même temps, donc c'était pas possible. Sachant que bon, j'ai une écriture de merde et que prendre mes cours à l'ordi, ça me permettait d'être trois fois plus efficace pour apprendre à être un meilleur prof.
Ouais.
Oui,
alors que
voilà.
T'as la majorité, mais on te dit non, mais tu risques de jouer à des mineurs pendant que tu prends tes.
C'est ta gueule, ça, en fait. Exactement. Tu es fonctionnaire stagiaire et on te fait comprendre que tu risques de jouer à des mineurs pendant que tu prends tes cours. Et puis là où tu te dis qu'il y a vraiment un problème, c'est quand les enseignants stagiaires de première année, les formateurs viennent les chercher pendant les cours. Comme s'ils avaient les anciens stagiaires en difficulté, qui ont plus de mal à asseoir leur autorité dans les classes, à préparer leurs cours, etc. Et les formateurs viennent les chercher pendant les cours, au milieu de leurs camarades, comme s'ils avaient fait une bêtise quelque part, pour leur dire, et voilà, on vient te chercher un à un, et tu vas voir le grand directeur de l'UFM qui va te dire que, eh ben, que t'es en difficulté, que t'as un suivi particulier, etc. Et là, tu te dis, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas logique, en fait.
Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher de voir que des gens qui ont des problèmes d'enfance tu vois, et qui doivent un peu se branler de ce pouvoir qui se crée, tu vois, de ces formateurs là qui viennent chercher, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je sens leurs problèmes psychologiques et qu'ils devraient tous voir un psy.
C'est le fait d'avoir, de toute façon, c'est à partir du moment où t'as un petit pouvoir sur un
ouais.
adulte, tu t'en régales, quoi.
Et oui, mais ça, pour moi, c'est typiquement un truc d'enfant, en fait.
Mmh.
C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, un adulte, ce que, du coup, je me rends compte, ça n'existe pas, à part nous, à part nous trois, hein, je veux dire, tout le reste du monde, c'est pas des adultes. Mmh. Mais à part nous, j'ai l'impression que tous les autres, ils font genre des petits trucs comme ça. Ah, je vais aller le chercher maintenant pour faire genre des trucs comme ça. Et tu te dis, genre, tu peux grow up un peu. C'est, tu vas le chercher à la fin de son cours, tu règles les problèmes, tu lui expliques comment il faut faire, tu mets des points clés, on n'a pas que ça à branler, en fait, tu vois. Mmh. En fait, j'aimerais tellement pouvoir avoir une carte gouvernementale pour virer des gens, en fait. Tu vois, genre, t'arrives dans n'importe quelle institution et t'arrives, toi, tu dis, toi, tu fais mal ton travail, tu dégages, tu pars.
Mais du coup, tu te retrouves dans la position de ce qu'ils sont en train de faire.
C'est vrai. Utiliser, mais du coup, ce sera pile mon job. Il n'y aura pas d'autre chose. C'est juste virer.
Mais tu vas aller chercher à la fin.
Voilà, à la fin
par
de
contre,
la journée.
Pour en revenir à la pédagogie, il me semble que maintenant, genre moi, mon Master 2, si je veux, je peux demander à être prof de maths, non? Ou il n'y a pas un truc comme ça? Ou prof de physique? Genre avec un master, tu peux maintenant tu peux être prof sans.
Je pense que la formation c'est encore plus réduite que ce que moi j'ai pu subir à l'époque.
Je crois.
Et je pense qu'il y a de plus en plus de démissions précoces au bout d'un an ou deux. Parce que c'est des métiers extrêmement difficiles et que. Et à côté de ça, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux jeunes flics ou aux jeunes enseignants et je me dis, mais à un moment donné, quand tu deviens vieux, t'es fatigué, t'as mal au dos, t'as mal à la tête, tu peux pas aller dans des endroits où ouais. On te demande, t'es fatigué, tu l'as mérité ton poste un peu pépère dans un commissariat tranquille ou dans un lycée un peu riche, quoi. Parce que t'en as.
Mais il y a un entre-deux.
Ouais.
Il y a un entre-deux. Il y a le démarrer. Il y a être dans le feu du truc, c'est-à-dire avoir 5 ans d'expérience, avoir un peu d'expérience et connaître le métier entre 5 et 10 ans, tu vois. Et au-delà de 10, 15 ans, ok, tu vois. Je sais pas comment te dire.
Tu peux pas dire à quelqu'un, regarde, je vais te mettre là, c'est bien. Mais pendant 10 ans, tu vas en chier un truc de fou.
Et
tu vois, tu peux pas, c'est comme une sorte de promotion, en fait, que t'aurais pas, quoi. T'en as bavé, donc t'as droit à du mieux, quoi. T'as droit à ce qu'on te foute la paix, un peu.
C'est quoi ton, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire?
Il y a pas de solution. Je sais pas, il faut plus de moyens humains, il faut plus de.
Ouais, plus de formation.
Ouais, non, et plus de moyens humains, il faut doubler, peut-être, travailler à plusieurs en binôme, avoir plus d'argent, on n'invente rien.
Ouais.
Mais tu vois, par exemple, j'ai discuté avec mon voisin là, par rapport au collège, par exemple, Arthur, ici, dans la ville où on habite. Il y a les deux collèges ou les trois collèges qu'il y a, ils sont en. Je sais plus comment ils appellent les catégories maintenant, tu sais. T'as les lycées, entre guillemets, normaux. Et après, t'as les premiers niveaux de difficulté, deuxième niveau, ou je sais plus comment ils appellent ça, pas ZEP, mais.
C'est REP, je pense. REP et REP plus, peut-être.
REP 1, REP 2, enfin, ou REP plus, enfin bon. Et en fait, il y a.
Ensuite, il y a les enfers. Et tu te demandes en fait, des démons.
Je me demandais, mais dans quel collège il vaut mieux aller? Et en fait, il me disait, il y a un collège. En gros, il est pas classé REP. Mais en fait, il est genre à la limite d'être classé REP. Et du coup, ils ont pas de financement, ils ont rien. Et c'est le bordel. Et l'autre collège où c'est à peu près pareil, mais du coup, ils sont passés REP.
Ils ont des fonds.
Et là, t'as dédoublement de classe, ils ont plus de fonds, de moyens humains, etc. Et du coup, tu te dis, en fait, je vais mettre mon gosse dans un établissement en REP parce qu'en fait, il y a des moyens, ils sont moins nombreux par classe, il y a plus de suivi, etc. Alors que si tu le mets dans le collège normal, eh ben en fait, il y a plus de bordel, quoi. Et tu trouves ça fou, tu t'es dit, mais à un moment donné, mais pourquoi?
Oui, mais bon, après, de toute façon, il faut que tous les enfants qui soient dans les deux collèges aient une bonne éducation de toute façon, en fait.
Mais c'est ça le problème.
Mais ça, c'est j'ai l'impression qu'il y a une grande tradition française aussi des tranches.
Tu sais,
ils connaissent pas les fonctions affines, tu sais. Il faut absolument qu'il y ait des paliers. S'ils ont pas de paliers, les gars, ils sont perdus. Non, mais à partir de combien? Ta gueule, en fait. Fais comme ça.
C'est comme la CAF. Un enfer. Là, on est le truc de la nounou. On est passé genre à 200 euros près. On est juste au-dessus. Du coup, on a droit à 300 euros de moins parce que t'as 200 euros de plus. C'est n'importe quoi. C'est les tranches, tu sais. Le mec, tu peux même pas négocier. Tu sais, tu dis, ouais, mais,
Mais en fait, tu sais pourquoi ça, c'est genre à peu près arbitraire pour en amont, c'est qu'ils ont pas fait leur taf en fait. Parce qu'en fait, si tu fais vraiment ton taf, tu sais combien un foyer a besoin d'argent dans telle zone pour justement, par exemple, avoir des gardes d'enfants, des crèches, des machins. En fait, tu dois connaître normalement la moyenne de tout ton peuple, de ce qu'il peut dépenser d'argent, etc., etc. Et du coup, en fonction de ça, tu peux dire, toi, t'as droit à ça, toi, t'as droit à ça, t'as droit à ça.
Mais surtout, en plus, instantanément, avec les impôts à la source et tout. Instantanément, tu sais que le mois d'après, t'auras besoin de ça.
Mais qui demande à Google de leur calculer? Tu vois ce que je veux dire? Ils disent à Google, vous savez quoi? Finalement, vous payez pas vos impôts en France, mais vous calculez tout ça, vu que vous avez toutes les infos de tout le monde. En vrai, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ils ont ton compte en banque, ils savent combien tu payes à Amazon, ils savent tout. Que au moins toutes ces datas, elles servent à quelque chose. Tu sais. Moi, c'était pareil, j'ai parlé à des potes On a fait comment ça s'appelle, un podcast spécial complotisme, tu vois, avec tes potes. Et il y a le fameux truc de le vaccin, et c'est des nanoparticules, et ils vont te pucer avec le vaccin anti-Covid et tout. Et
moi, je dis, mais ils vont t'activer, mais ils vont t'activer dans un an.
Pucez-moi maintenant, en fait, que j'ai pas à parler à la CAF, que la CAF me vire exactement ce qu'ils me doivent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça, encore une fois, c'est parce que, au début, on croyait ça quand on était justement, quand on avait 20 ans, 21 ans, on croyait que la CAF, tu vois, ou les impôts, c'était des trucs où tout le monde faisait leur taf et tout le monde pouvait recouper les informations, etc. Et après, quand tu commences à vivre un peu ta vie, tu te rends compte qu'en fait, vous savez rien sur rien, vous faites, personne fait le travail en amont, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que pour chaque ministère, moi, si je devenais ministre, j'aurais quand même une task force dédiée. Genre, ok, je vais juste faire plaisir et régler les problèmes au jour le jour comme une vieille merde qui soi-disant, et encore, ils règlent plus les problèmes de relations publiques pour faire genre, en fait, des choses. Mais au moins, avoir une task force à qui tu dis, bon, ok, repensez, moi, le système pour que tout soit réglable avec une app, en fait, dès le début. Et puis, ce sera réglé. Tu te ferais pucer, toi, PJ? Toi, normalement, tu te ferais pucer. Tu détestes faire de l'administratif.
Je ne comprends pas, en fait, pourquoi. Si ça permettait d'éviter tout le papier qui existe encore et tous les trucs qui ne sont pas automatisés, je le ferais.
Qu'est-ce qu'on attend?
Mais parce que le papier, c'est pas possible. Enfin, de recevoir des trucs dont tu dois t'occuper, mais c'est pas possible.
Moi, je fais des crises d'angoisse de recevoir des papiers où les gars me demandent un truc qu'ils ont déjà. C'est vous qui... Ah ouais. Je vais sur votre site pour remplir le papier que vous me donnez. Genre, tu fais, mais... Oh. C'est horrible. Et Ben, tu te fais pucer, toi?
Je sais pas. Non, il y a 5-10 ans en arrière, je t'aurais dit oui.
Et là, t'as peur de quoi, en vrai?
Mais en fait... Depuis tout ce qui s'est passé là avec le Covid, etc. Je suis vraiment dans le groupe de gens de méfiance, en fait.
Ouais.
Et tu vois, par exemple, moi, je disais à mes collègues, je suis un pro vaccin à la base. Mon fils, oui. Il a tous les vaccins.
C'est trop marrant de dire pro vaccin.
Non, mais je te sors mon truc de gendarmerie. Ils m'ont vacciné tous les ans. J'ai tous les vaccins possibles. T'imagines pas? Donc moi, je suis vraiment. Et là, par exemple, avec ce qui sort là, je sais pas, au fond de moi, je suis méfiant. Je me dis, mais en fait, je sais pas, c'est tôt.
Comment veux-tu ne pas être méfiant à partir du moment où c'était les mêmes gars qui t'avaient dit sortez au théâtre, ne mettez pas de masque, mettez un masque ça, en fait, deux semaines après, ah finalement, on va confiner 4 secondes après. Et ces mêmes gens-là, où normalement, un vaccin, c'est 5 à 10 ans de décès sur des milliers de personnes. On va te dire, faut l'utiliser. Ben oui.
Et attends, je sais pas si t'as écouté. Alors, je sais plus qui c'est cette femme. Faut que je te ressorte la vidéo. Je sais pas ce qu'elle a dit. Un truc, j'ai trouvé ça incroyable. Elle a dit, non, mais de toute façon, on administrera d'abord le vaccin
aux vieux.
À des personnes. Ah ouais,
fragile, ouais.
C'est les vieux. Mais attends, à des personnes dont les effets secondaires, en gros, c'est pas trop grave si ça leur arrive, quoi.
Ah,
en gros, c'est les vieux presque à crever. On va leur... Et en gros, il y a une catégorie de gens, ton grand-père, quoi, en fait.
C'est pas grave, genre, il va avoir des pustules, mais c'est pas trop grave.
Et elle disait ça comme ça. Et toi, t'es là, t'écoutes ça, tu dis, mais c'est pas possible, dans quel monde on vit, quoi. Je sais pas, calmez-vous, à un moment donné, on se calme, quoi. Je disais à Jacqueline, ça va trop vite, quoi. Calmez-vous. Il faut, à un moment donné, il faut raison garder, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça...
À la base, les anti-vax complotistes, c'était les mêmes gars qui disaient au début, on n'a pas le temps de tester, là, l'heure est grave, utilisons la chloroquine immédiatement. Tu vois, c'est des gars qui disaient, on n'a pas le temps de tester. Mec, je crois que t'as rien compris, ni à la science, ni à la médecine, si tu dis ça. Et maintenant, les mêmes gars, ils disent, oulala, on n'a pas assez de recul, il faut tester le vaccin. Non. Moi, ouais, je dis, on teste sur toi. Le vaccin. Mais le problème, c'est que tu vois, tu te retrouves dans une position où un raisonnement intellectuel, juste normal, te fait dire quand même, c'est un peu rushé quand même, ce truc, que tu te retrouves à être avec les gens qui disent de la merde, en fait. Et du coup, t'es mal vu Alors que tu dis quelque chose de sensé, qui est juste...
Mais moi, ce que je trouvais fou, c'est que... Alors déjà, le gouvernement, déjà, bon, il faisait un petit peu la girouette, là, au début. Et puis, si... Alors, il y avait des mecs qui allaient dans les médias, et si t'avais le malheur d'être un peu à contre-courant, enfin, à pas suivre un peu le mouvement, t'étais directement catégorisé complotiste, etc. Ouais. Alors qu'en fait, moi, dans mon éducation, on m'a appris que douter un petit peu oui, et sûr. Réfléchir, en fait, ça, c'est de la sagesse.
Ça,
quoi.
Ça s'appelle la science aussi. C'est, tu doutes, ouais, tu analyses et ensuite voilà. Tu... Ouais.
Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, si tu réfléchis trop, en fait, on te dit, tu sais, on te pointe du doigt, on dit, mais ta gueule, quoi. Tu vois, je sais pas. C'est, moi, je trouve qu'on... Et je sais pas comment on en est arrivé là. Je trouve qu'en un an, on est...
Ouais.
Je trouve ça incroyable, quoi. Ouais. Et tu vois, par exemple, donc nous, comme tu dis au début, alors le masque, pas le masque, les restos, pas les restos. Et tu vois, par exemple, on prend un exemple, par exemple, sur la Suède. Et ils disent, ouais, mais vous regardez, la Suède, ils ont pas confiné. Ouais, là, c'est en train de redémarrer, tout ça. Sauf qu'au début, la Suède, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, nous, on a cette ligne-là, on fait ça.
Oui.
Vos gueules, on fait ça, oui. Vous faites ça. Il n'y a pas eu 10 choix différents. Oui, ça veut dire que pendant un an, ils ont fait ça.
Oui, non, non.
Ça marche peut-être...
Pas pendant un an, parce que du coup, effectivement, eux, c'était intéressant, parce qu'au début, ils ont dit, non, on fait confiance à tout le monde, on confine pas, etc. Et en fait, on a vu que pour le coup, ils ont eu beaucoup de cas, ils ont changé, du coup, après. Ils ont dit, on va plus...
Mais je veux dire, ils avaient une ligne directrice qui était...
Et en vrai, c'est pas grave. C'est-à-dire, si tu te trompes, mais que tu dis, on fait tout ça, c'est pas grave, en fait.
Et tu vois, moi, franchement, ce gouvernement, ce que je regrette, c'est qu'il y ait personne qui a assumé au début, ils auraient dû dire, OK, on n'a pas les masques. L'assumer, tu sais. Oui. Dire, OK, on n'a pas les masques, on a fait de la merde. Voilà.
Non, mais, et puis surtout, alors, en fait.
Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les a pas. On s'en fout, on les a pas. Sarkozy, il a fait de la merde, je sais pas quoi. Hollande, il a fait de la merde. On les a pas. On est à l'instant zéro, on les a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et on dit pas, non, ne les mettez pas, ça sert à rien.
Oui, ils ont beaucoup plus passé du temps et de l'énergie à gérer les relations publiques et la communication,
ouais, c'est ça.
Plutôt que gérer le problème. En fait, c'est ça le truc, c'est que quand t'es scientifique, et d'ailleurs quand t'es médecin ou tu vois professionnel de santé, tu dis en fait, on va faire ce truc-là parce que c'est le meilleur truc à faire maintenant. Et c'est tout, c'est pas grave, si on voit que c'est de la merde et qu'on va vers le mauvais côté, on redirigera ailleurs, et c'est comme ça, on peut pas faire mieux, en fait.
Enfin, c'est peut-être pas affreux ce que je vais dire, mais ça a peut-être pas engendré autant de morts que ce qu'on pensait, quoi.
Bah après, si tu pensais zombie, oui, c'est pas autant de morts que ça.
Non, mais je veux dire, ce qui était affreux quand tous les jours on te disait, ouais, il y a eu 100 morts de ça. Ben, qu'on nous donne tous les jours le nombre de morts du cancer, qu'on nous donne tous les jours le nombre du morts du sida.
Oui, mais
tu vois,
ça, c'est
de la malnutrition, tu vois ce que je veux dire.
Ça, c'est basal. C'est-à-dire que là, c'est particulièrement maintenant où c'est une surmortalité par rapport à la norme. Mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'après, c'est par rapport à la peur, qu'on t'instille par rapport à ça. Mais en même temps,
Parce que moi, personnellement, ça me fait pas peur. Enfin, je sais pas comment dire. J'essaye de plus en avoir peur. Je me dis, 90% des morts, ils ont plus de 80 ans, quoi, tu vois. À un moment donné, je veux dire, la méningite, il y a des mecs qui meurent de la méningite à 30 ans. C'est pas pour ça que tu vas faire gaffe, tu vois,
c'est-à-dire
ce que je veux dire.
Oui, mais c'est la mortalité, ça, annuelle, classique. Mais justement, j'avais posé la question dans un podcast où j'étais invité juste avant le premier confinement, où je m'étais demandé, et ça, pour le coup, tu vois, c'est dommage que les gens se penchent pas sur des trucs comme ça, c'est la peur. En fait, le fait de voir ça tous les jours à la télé, etc., est-ce que la peur fait que peut-être tu vas faire plus gaffe? Est-ce que tu vas te laver une fois de plus les mains dans ta journée et qui va du coup quand même faire diminuer les stats ou des choses comme ça? Je sais pas en quoi ça peut être utilisé, en fait.
Ouais, après, il y en a qui te diront qu'en France, en fait, on est tellement... Enfin, on est français, quoi, on est têtu, et en fait, il fallait qu'on nous tape dessus comme ça pour que ça rentre dans notre cerveau, quoi.
Ouais,
et s'ils n'avaient pas confiné, parce que c'est vrai que Jacqueline, elle disait, regarde, quand il y a eu le déconfinement, ils ont déconfiné d'un coup complet et les gens faisaient n'importe quoi.
Bah, bien sûr.
Moi, j'avais l'impression d'être un con avec mon masque en avril, là, dans le supermarché, j'étais le seul avec mon masque, tu vois.
Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu difficile.
Non, mais après, si tu relativises, moi, si j'essaie de relativiser sur le nombre de morts, le truc comme ça, je me dis, mais à un moment donné, parce qu'il va falloir penser sur du long terme, pourquoi tu cibles pas la protection des personnes à risque? Et puis, s'il y a un mec de 30 ans sur 500 000 personnes, ben tant pis.
Ben, après, ça va être la vraie question, c'est-à-dire à partir de quel moment dans les précautions tu vas te dire bon ben ça va devenir la nouvelle norme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ouais. À partir de quand? C'est comme en fait là le Covid, c'est comme si genre il y avait des on lâchait des tigres en fait dans la rue. Genre il y avait pas beaucoup de tigres. Mais si t'as pas de bol, tu le croises, en fait.
Ouais, c'est ça.
Là, la question, c'est genre, essayer de pas sortir pour pas choper les tirs, et en même temps, on essaye genre de les prendre dans des filets pendant, ou alors, et de donner aussi des guns à tout le monde pour qu'au cas où, s'ils croisent un tigre, ils tirent dessus. Mais genre, j'aime bien, je sais pas où est-ce que je vais avec cette métaphore, mais, mais la question, ça va être à partir de quand on va se dire, bon, je crois qu'on arrive à bien supprimer les tigres, il nous faut 2 mois de plus, et à ce moment-là, ok. 2 mois après, finalement, il n'y a plus aucun tigre, tu reprends ta vie normale. Ou alors, on va se dire, ben en fait, les gars, en fait, finalement, les tigres, ils ont trouvé d'autres tigres pour baiser, et finalement, il y en a, quoi. Il y en a moins, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en aura toujours. Et du coup, ben, certainement, il va falloir qu'on ressorte, quoi. Alors la question, c'est est-ce qu'on va tout le temps ressortir avec des guns, ou est-ce qu'on va juste ressortir, et puis celui qui s'est mangé, il s'est mangé, quoi.
Je sais pas. Après, moi, je pense qu'on aurait. Je pense que si c'est con, hein, mais je pense que si les hôpitaux étaient pas saturés, je parle pas que de la France. Je pense que c'était un peu pareil partout. S'il y avait pas eu de saturation d'hôpitaux,
oui, il y aurait pas eu bien sûr
toute cette histoire. Non,
mais bien sûr.
Quoi, en fait.
Si c'était illimité, si genre t'avais des hôpitaux, c'était thème hôpital, tu pouvais créer des ailes d'hôpitaux partout
et en
que
fait,
du coup
mais ils accueilleraient les gens et puis point final
exactement
quoi.
Mais
parce
je mais
parce
là,
que finalement économiquement parce que les gens qui meurent ils ont 90 ans et
mais bien sûr parce qu'en fait
on te met un peu en respire avant de partir et puis basta quoi.
Mais parce que tout le game c'est que si t'as un accident de voiture que tu puisses être pris en charge et que
ouais,
et que il y a pas le truc mais j'avoue que oui je vois très bien le gars prendre une décision économique à dire on ferme rien si t'es malade. Tu vas à l'hosto et c'est ton problème, quoi. Sauf que là, on aurait vraiment eu 1% de mort.
Mais c'est là où je trouve fou, c'est que dans certaines régions, ils sont encore en train, il y a encore la programmation de l'hôpital, etc., etc., où il y a des programmations de suppression encore de lits dans les hôpitaux.
Ah ouais.
Et moi, ça, j'arrive pas, quoi. Franchement, à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas.
Mais déjà, dans les 8 mois entre les 2 confinements, ils ont rien prévu de plus. Et ils ont, ils continuent, je sais pas. Ou juste met de l'argent dans l'éducation nationale pour aider PJ, pour que les futurs députés soient pas des attardés mentaux, quoi.
Après, tu vois, je te dis que j'aimerais être optimiste, mais le problème, c'est que je pense que la crise sociale qui va être engendrée par ça, je pense qu'en fait, on n'imagine même pas, je pense. Et quand on te parle que peut-être qu'ils imaginent 2 restaurateurs sur 3
vont fermer.
Je pense qu'il va fermer, tu te dis, mais attends, 2/3 des restos vont fermer en France, tu sais, tu te dis, mais
j'ai lu,
c'est possible, quoi.
J'ai lu un article d'un économiste qui a dit un truc assez ouf. En fait, ce qui va se passer, ça va être comme une crise de 2008 pour l'immobilier. Sauf que là, ce qui va faillir, c'est pas les banques, c'est l'État lui-même. Parce qu'en fait, là, maintenant, il y a l'État, il donne du chômage partiel à plein d'entreprises qui, en fait, auraient dû fermer. C'est-à-dire, quand tu vois les stats des entreprises qui font faillite, normalement par an, donc pareil, comme la mortalité basale des entreprises,
elle
a diminué, en fait. Parce que du coup, le chômage partiel fait que tu fais survivre des entreprises qui et du coup ça s'appelle des entreprises
vont arrêter d'un coup ça va...
exactement ça s'appelle des entreprises zombies et en fait dès que le chômage partiel va s'arrêter il va y avoir plein de gars qui vont se dire ah mais en fait ça marche pas
je peux plus travailler
et du coup faillite partout plein de gens qui vont perdre leur job et en fait ça va être une grosse crise économique parce que qui c'est qui normalement se prend en charge les gens qui sont au chômage? Bah l'État aussi en fait. Sauf que il a déjà donné de l'argent pour le chômage partiel et du coup l'État devra emprunter à des banques, mais aussi les banques aussi elles ont fait des prêts à taux zéro pour aider les entreprises pendant ce temps. En gros il y a plein de trucs. Enfin c'est bien d'être riche quoi.
Ouais non mais après ouais. Enfin à un moment donné tu te dis quand même je pense qu'un État à un moment donné enfin je sais pas. Mais je pense qu'un État, ça peut pas faire faillite. À un moment donné, tu dis, Tu dis, tu dis fuck à la banque et fuck quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'était, je sais pas, c'est un pays quoi. C'est pas le pays qui va chuter et la banque qui va te faire coucou.
Oui, surtout que.
À un moment donné, il faut porter ses couilles quoi. Je sais pas.
Non, mais surtout que c'est mondial et c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire, c'est difficile à appréhender le truc de dire, oulala, le monde est en crise économique. Tu te dis, mais attends, c'est quoi la diff par rapport à il y a un mois?
On paye qui? On paye les martiens.
Ouais, c'est ça. C'est exactement. Tu te dis, genre, mais attends, je comprends pas. On fait quand même du maïs, on fait quand même du blé, on peut quand même manger du pain. Qu'est-ce qui a plu, en fait? En fait,
c'est la théorie du grand reset.
Oui, des complotistes. Bah, j'ai hâte que ça arrive.
Du grand reset, Enfin, non, mais du grand reset des dettes, quoi, tu vois.
Ah oui, pour tout serait à zéro. Bah, à ce moment-là, faut me le dire avant. Comme ça, je fais un gros prêt juste avant et après, on fait un reset.
Non, ouais, je suis assez inquiet sur la suite, quoi. Après,
Je sais pas, vous, peut-être qu'ils feront des... Pour ta ligne de boulot, peut-être qu'ils feront encore des centres de... Des camps, peut-être. Tu pourras toujours faire le béton pour les camps.
Alors nous, on a actuellement du boulot, les entreprises ont du boulot, mais à un moment donné, comme tu dis, c'est l'État, on travaille beaucoup, il y a des collectivités du coup qui font des projets, qui font des financements, etc. Mais qui te dit que dans un an, ils vont avoir les financements. Donc en fait, la construction va baisser, je pense. Hein. Donc qu'on sera aussi impacté, quoi. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir un milieu qui ne sera pas impacté, quoi.
C'est possible. C'est possible aussi. Après, nous, les gens vont toujours tomber malades des dents, mais la question, c'est s'ils peuvent plus payer, à partir de quand on va les soigner avec, on va leur mettre de la terre dans les dents, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que presque à un moment, les matériaux ont des coups, des trucs comme ça. Enfin, bref.
En tout cas, c'est pour ça que je forme Arthur pour qu'il fasse.
Super héros?
Qu'il fasse astronaute. Non, pour qu'il s'en aille, quoi.
SpaceX. PJ, tu pars, si on te dit SpaceX mission sur Mars 2026, on te dit tu peux si tu veux, tu t'en vas ou pas?
Moi j'y vais direct.
Non, je pense pas. Je pense que j'aurais pas le courage.
Et si on y va, Ben?
Ah
là oui. La famille, moi, toute la famille.
Là oui, s'il y a des jeux, oui. S'il y a une salle de jeu dans la base, oui, clairement oui. Mais sinon, non, ça m'intéresse pas. S'il n'y a pas de jeu, ça m'intéresse pas.
Bon, bah, du coup, on va leur dire de créer une ludothèque, alors.
Et en plus, tu peux pas réceptionner les nouveaux jeux sur Mars, du coup.
Si, il y aura Amazon, je crois. Il y a déjà Amazon, il y a déjà les entrepôts, je crois.
Mais on n'est pas obligé d'aller sur Mars pour faire ça. On peut acheter un terrain en Lozère ou quelque part, tu vois.
C'est vrai.
Et on fait, voilà, on fait ça, quoi.
Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, merci à vous deux d'avoir discuté de l'état actuel du monde, quoi.
C'est vrai.
Et je pense qu'on va pouvoir se refaire ça fréquemment, hein, je pense. Parce que comme tu dis, comme tu s'arrête à une paire de coups.
Pourquoi on s'arrête là à ce moment précis?
Tu préfères que... Alors, tu sais quoi? T'as raison. On va finir sur autre chose. On va finir sur le monolithe. Oui. Le monolithe qui a été trouvé en Utah, en Roumanie et en Californie. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, du coup?
Non, moi je suis plus pour la théorie du...
De l'artiste.
De l'artiste qui s'est marré en disant « je vais mettre des trucs comme
ça ». Ben ouais, malheureusement.
Pour se souvenir de moi quand je serai mort, et je trouve ça chouette.
Et PJ, toi aussi?
Ben malheureusement, oui, c'est juste ça. C'est décevant, comme toute réalité, comme la réalité depuis... Voilà, quoi.
D'accord.
Il n'y aurait pas eu cette théorie, ils n'auraient pas sorti cette théorie, on aurait été tous comme des fous.
Ouais, mais après, finalement, j'ai vu une petite vidéo sur YouTube de gars qui ont démonté le monolithe de l'Utah, en fait. C'était eux qui l'avaient démonté.
Ah, non.
Et en fait, tu vois que c'est juste de une pièce de tôle moisie. Moi, j'étais là, genre, vas-y, il va crever.
Ah, le truc n'était pas en lévitation, en fait. J'étais pas au courant.
C'est énorme. T'imagines? Mais en même temps, c'est trop marrant parce que cet été, il y a eu la fameuse vidéo déclassifiée des F-16, là, qui ont pris en chasse un ovni, quoi. Enfin,
Et tout le monde s'en fout.
Et du coup, tu disais genre, mais même moi là, je me dirais, imagine, il y a vraiment un truc qui lévite. En fait, même si ça sortait dans les news, et après il y avait une tente de la CIA qui est dessus, En combien de temps on va oublier qu'il y avait le truc qui était en train d'être de l'éviter? Tu vois ce que je veux dire? Ça, on va être tout le temps. Au début, tu vas être là, genre, non, c'est incroyable et tout. Ben, ils font des essais dessus, ils font des recherches dessus, hein, sûrement. Et au bout de combien?
Une semaine, on
aura oublié le confinement, le machin, le truc. On va regarder The Mandalorian et après on va faire, ah, mais tu te souviens pas, hein? En septembre, il y avait un truc qui l'évitait. Tu te souviens ou pas? Non, je crois pas, non.
C'est vrai qu'il y a quand même une problématique d'infos en continu. T'es abreuvé de trucs.
Ouais.
Du jour au lendemain, un jour, il va se passer ça. C'est comme, j'en reviens à Trump, il va te faire un tweet de folie un jour. Et tout le monde, tous les BFM, tout ouais. le monde va. Oh, et puis le lendemain, en fait, je sais pas, il va y avoir Maradona qui meurt. Et en fait, et t'as oublié que la veille, l'autre, il a dit.
On va attaquer l'Iran, oui, c'est ça.
On va tirer l'Iran, tu vois. Et tu te dis, mais.
C'est vrai.
Dans quel monde on vit, quoi. C'est affreux.
Ouais.
Franchement, le Covid, c'est un épisode de Black Mirror.
Bon, bah, Benjamin, PJ, merci à vous deux.
On s'arrête là sur ça, du coup.
Ouais, on s'arrête sur ça.
Ah, faut taper dans les mains,
ça,
non
ça, c'est bien. Tu veux retaper dans les mains. J'allais dire, je sais pas, si vous voulez faire de la pub pour quelque chose.
Ben moi, je voulais faire de la pub pour CS.
Les dizaines et les dizaines de personnes qui... Pour Counter-Strike.
Pour Counter-Strike, ouais. C'est un jeu qui permet de se retrouver entre amis.
C'est vrai.
Ben moi, je souhaite bien du courage aux gens qui vont regarder cette vidéo.
Tu veux faire de la pub pour ton bureau d'études, Ben? Si quelqu'un veut construire chose à Lyon, ça va.
Non, quand je serai à mon compte.
Ok, très bien. Bon, ben... Du coup, bisous à tous. Et à bientôt alors.
À
bientôt.
Restez vivant. I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind. And I'm counting on you to carry me through. Boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.